Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out. Alors vous avez l'habitude, je ne le présente plus, il est là, il a pris ses aises, et maintenant il dort quasiment chez moi. C'est Daniel Findikian. Bonjour Daniel.
Bonjour Marc.
Bienvenue Daniel. C'est le boss de l'EMIC, l'école de management des industries créatives, et c'est lui qui a eu l'idée démoniaque de redoubler les Sold Out, d'en faire un tous les jeudis finalement, et un jeudi sur deux, on parle du métier de manager ou manageuse d'artiste.
Tout à fait, et aujourd'hui on reçoit Céline Garcia, qui est manageuse notamment de Pomme. Merci Céline d'être venue chez nous.
Eh ben, merci à vous deux pour votre invitation et ravi d'être là.
Merci parce qu'avec toi Céline, on va parler encore de nouveaux modèles de management. Hein, c'est encore un nouveau profil. On va évoquer tous ces sujets dont on parle dans ce podcast depuis quelques temps. Est-ce que c'est des services aux artistes? Est-ce que c'est de l'accompagnement? Est-ce que c'est du conseil? Comment on leur montre aussi l'avenir? Et toutes ces questions d'intelligence artificielle et puis tous ces sujets qui te passionnent dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant.
Est-ce que tout est prêt?
Oui, monsieur le directeur.
Bon, alors je vais faire commencer.
On parle d'artistes, on parle de développement de carrière, on parle de partenariat, on parle d'appels en pleine nuit ou pas.
Vous faites ce métier pour le plaisir ou pour l'argent?
On parle de conseil, on parle de conseiller, on parle d'accompagnement.
On parle d'humain, non?
De temps à autre, il me faisait signer des papiers auxquels je ne comprenais rien.
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Je suis Céline Garcia, manageuse d'artistes et éditrice musicale et cofondatrice de la société Puppet Master.
Premier artiste managé?
Pomme.
Dernier artiste managé?
Messia.
Sold Out saison 5, hors série numéro 6 avec Céline Garcia, fondatrice et directrice générale de Puppet Master, associée avec Benoît Carré, on en parlera tout à l'heure de Benoît, et manageuse notamment donc de Pomme Messia, et aussi éditrice, hein, Céline, important pour toi, enregistrée dans les bureaux de Delight à la fin de l'année 2023. Alors au début, quand tu étais toute petite, tout a commencé en conservatoire pour toi, Céline.
Oui, alors je suis donc née à Brive-la-Gaillarde en Corrèze et effectivement très jeune, j'ai commencé à faire de la musique, du violon au conservatoire et de la danse contemporaine aussi. Donc voilà, ça m'a sensibilisée.
Pendant combien de temps? Pendant longtemps?
La danse, j'ai commencé à 4 ans, j'en ai fait pendant 14 ans et le violon, j'en ai fait pendant 8 ans.
Ah ouais, voilà. Et t'as hésité à être artiste, à devenir artiste ou pas?
Ouais, ça m'a un peu titillé à un moment, ouais. J'ai été très vite après le bac dans mes études et je regrette parfois de pas avoir pu peut-être plus prendre le temps d'explorer le côté effectivement plus artiste. Voilà, j'étais très vite
embringuée. C'est encore un truc aujourd'hui que tu regrettes parfois?
Non, aujourd'hui non.
Aujourd'hui non, mais ouais. Ça a pu t'arriver de te dire tiens?
Ouais, ça a pu m'arriver, ouais, c'est vrai.
Donc ensuite tu fais des études de médiation culturelle? Et ouais. Tu fais des premiers stages, tu peux nous expliquer?
Oui, alors donc j'ai commencé par faire un stage dans un festival de guitare à Montpellier, je me rappelle. Après, j'ai fait des stages à l'Opéra de Montpellier. Et puis ensuite, je suis arrivée à Paris parce que j'ai intégré un IUP, métier des arts et de la culture, à Paris 1. Et là, j'ai fait un stage, je me souviens, au ministère de la Culture, par rapport à tout ce qui était école d'art. Et ensuite, j'ai rebranché avec le domaine musical parce que je me rappelle avoir fait un stage pour la fête de la musique à l'étranger avec l'ADCEP. Et ensuite, en dernière année, j'ai fait un stage au service musiques actuelles de l'Institut français.
Et voilà. C'est là où tu rencontres Gaëtan Roussel et sa femme Clarisse qui le manage. Et tu travailles pour leur structure d'édition.
Effectivement, donc c'était en 2009. Je termine mes études et j'ai la chance, comme premier boulot, de commencer par les assister tous les deux pour leur société à l'époque Gasoline, édition musicale et management.
C'est le moment où Gaëtan Roussel se lance dans sa carrière solo.
Tout à fait, oui. C'était son premier album solo, Ginger. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec eux un peu avant la sortie et puis jusqu'à quasiment 2 ans après, en fait, donc toute l'exploitation du projet. Et c'était extrêmement formateur comme première expérience.
C'est notre expérience incroyable parce que Louise Attaque était un groupe énorme. Gaëtan se lance dans une carrière solo, il y a des enjeux énormes. Et puis
ouais.
En même temps, c'est un peu l'inconnu aussi.
Oui, bien sûr. Et j'ai eu la chance aussi que tous les deux m'impliquent vraiment beaucoup dans le travail. On a travaillé vraiment à trois. Et donc, j'étais un peu aux premières loges aussi de ce que représente, pour un artiste même déjà identifié, le fait de sortir un projet solo. C'était quand même une prise de risque. Et donc, j'ai été... Oui, j'ai appris beaucoup par rapport à ça, en fait. En tout cas, la dimension, je peux dire le mot, un peu de fragilité aussi, dans laquelle ça met un artiste, quelle que soit sa notoriété d'ailleurs. Dès lors qu'on sort un nouveau projet, voilà, j'ai pu voir ça, donc ça a dû me marquer. Et puis, voilà, aussi le volet édition musicale, donc c'est aussi quand même beaucoup protéger les droits d'auteur et compositeur, et ça fait sens pour moi. Enfin, c'est quelque chose qui m'anime toujours beaucoup, en fait, de protéger et défendre le droit des créateurs. C'est quelque chose qui m'anime fortement, et à ce moment-là, ça m'a, je pense, beaucoup impacté aussi.
C'est une colonne vertébrale pour toi, la protection du droit des artistes.
Ah, complètement.
D'ailleurs, ça te motive tellement que tu passes à la SACEM.
Alors effectivement.
À la direction de la communication.
En fait, donc, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'édition musicale que je découvre, parce qu'il n'y avait pas encore de formation à cette époque, comme maintenant. Il n'y avait pas de formation en édition musicale, ni en production, ni en management. Donc, j'avais découvert l'édition musicale en travaillant avec Gaëtan Roussel et Clarisse Fiorgan. Et donc, pour un peu continuer un peu à me former, on va dire, je vais à la SACEM, effectivement. Je suis assistante de la directrice de la communication de l'époque. Et j'y reste presque 2 ans. Donc, c'est très formateur, c'est très différent. Je passe d'une petite structure presque familiale, on était 3, à une très grosse entité privée, avec beaucoup, beaucoup d'employés. Et j'étais la plus jeune, d'ailleurs, à l'époque. Le DRH me l'avait fait remarquer. Et donc, je passe 2 ans là-bas.
Toujours très sympa, les DRH. Hein.
Ça te met en confiance. Ouais, tu te dis, est-ce que j'ai bien fait de venir ?
On a juste oublié d'embrasser très fort Gaëtan, Roussel et Clarisse, parce qu'on les adore. Oui. On les adore par ici. Et t'as eu de la chance de commencer là, quand même.
C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance, tout à fait.
Et donc là, SACEM, grosse structure, t'es la plus jeune, tu t'éclates pas ? T'apprends pas ?
J'apprends, voilà. Je m'éclate, c'est autre chose, non ? J'apprends en tout cas, oui, j'apprends sur la manière aussi dont... ce qui m'a intéressé là-bas, c'était de voir comment... je venais du côté vraiment de l'auteur compositeur et d'éditeur, et je vois comment la SACEM, qui est en charge en fait de collecter et de rémunérer ces créateurs-là, fonctionne. Et donc je vois les très bons côtés, et puis aussi des côtés plus compliqués. Donc c'est très formateur en tout cas.
Et après, tu décides de repartir en freelance et tu rencontres Benoît Carré. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces années-là ?
Je repars pas en freelance. Je démarre mon activité de freelance, ouais, puisque j'étais salariée jusqu'à présent. Ouais. Et donc je crée mon activité, oui. Et là, je rencontre donc Benoît Carré, qui est musicien, qui à ce moment-là, donc en 2015-2016, commence à s'intéresser de très près aux expérimentations de création musicale avec des outils d'IA. Donc à l'époque, il intègre le laboratoire de recherche Sony CSL.
En 2015-2016
Dès 2015-2016.
Ah oui, il est un petit peu en avance de phase. Il n'était pas dans l'IA quand c'est devenu à la mode.
Ouais.
Il n'a pas entendu ChatGPT pour s'intéresser
non,
à l'IA.
C'est vrai. Ouais. Et moi non plus, du coup.
Bah ouais.
Et donc, effectivement, je le rejoins à ce moment-là. Il travaille sur une IA qui s'appelle Flow Machines à l'époque. Et il ouvre le studio à plein d'autres musiciens et musiciennes. Et ils font l'album Hello World ensemble, qui est considéré comme le premier album de musique pop fait avec l'aide, et non pas par, avec l'aide de l'IA, donc par des vrais musiciens et musiciennes. Et donc là, il ouvre le studio et il y a Stromae, The Pirouette, Catastrophe, Médéric Collignon côté jazz. Enfin, donc c'est vraiment un projet qui était avec beaucoup de collaborations. Et moi, à ce moment-là, je viens faire toute la partie édition musicale. Et je m'intéresse, de fait, à ce moment-là, aux enjeux du droit d'auteur. Quand une
intelligence artificielle est mobilisée, voilà. À qui appartiennent les droits d'auteur ? Est-ce qu'ils appartiennent aux artistes ? Est-ce qu'ils appartiennent aux gens qui ont créé l'IA ? Est-ce qu'ils appartiennent aux gens qui ont créé le corpus dont se nourrit l'intelligence artificielle ? J'imagine que c'est des sujets sur lesquels tu as dû te casser la tête à ce moment-là.
Oui, mais ça m'a passionné surtout. Et pour revenir un peu à cette, comme tu disais, colonne vertébrale, ça m'a vraiment passionné parce que toujours aujourd'hui, dans ce que j'en connais, il faut défendre le droit des auteurs-compositeurs qui se servent de ces outils. Donc moi, c'est toujours dans l'idée de protéger et défendre le droit des créateurs et des créatrices, même en utilisant ces innovations-là.
C'est un peu idiot. Si je prends une analogie, on défend les droits des musiciens qui servent d'une guitare, par exemple. C'est pas le mec qui a créé la guitare qui prend des droits d'auteur.
C'est exactement ce que tu pointes. C'est exactement ça l'enjeu. En fait, là, il y aurait un risque potentiel pour que le luthier, en fait, récupère de l'argent. Et alors qu'en fait, il a fait un instrument intéressant, mais c'est le créateur tel qu'il s'en sert lui qui lui donne une valeur artistique.
Ouais, voilà. Y a un truc en plus peut-être dans l'intelligence artificielle qui peut poser problème. Donc que Sam Altman ou que OpenAI, la société mère de ChatGPT, ou tous les gens qui créent des trucs d'intelligence artificielle n'aient pas de droit d'auteur. C'est un sujet que tu portes. Mais il y a un autre sujet qui est qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont créé les corpus dont se sont nourris les intelligences artificielles.
Oui, exactement. Ça, c'est des sujets qui sont sur la table en ce moment de la SACEM et de toutes les OGC, du ministère de la Culture
OGC,
aussi.
OGC, organisme de gestion collective.
Voilà, pardon.
Organisme de gestion collective, tout à fait.
Donc c'est quoi ? Bravo. C'est la SACEM, c'est quoi ?
C'est tous les organismes qui vont collecter les droits, donc ça peut être les droits d'auteur ou les droits voisins.
Adami, SCAM...
Tous ces trucs qu'on enseigne à l'EMIC, hein.
Tout à fait. Mais tu viendras à l'EMIC, Marc.
Il faut que je me forme. Bon, alors on va parler du métier de management dans un instant, mais on continue tant qu'on est sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un truc qui te passionne et qui passionne ton associé. Vous travaillez beaucoup dessus. Il y a des artistes, tu sais, moi je suis fou fan de Nick Cave. Nick Cave est très péremptoire sur ChatGPT, et en disant, c'est pas parce que vous demandez à ChatGPT de créer une chanson à la manière de Nick Cave ou de je ne sais qui que ce sera une chanson, parce que ça passe pas par l'âme, ça passe pas par le cœur, ça passe pas par les tripes, c'est pas un truc du tout intéressant, c'est une photocopie pâle. Et est-ce que c'est ça, travailler sur l'IA ?
Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Nick Cave, si je puis me permettre. Ouais. Enfin, c'est sa pensée, mais je partage tout à fait ça. Et avec Benoît Carré, c'est tout à fait ce qu'on explore et ce que lui aussi explore. En fait, c'est des outils, c'est des instruments, en fait. Parler d'âme, c'est très important dans ce que tu dis. Et c'est l'essence même, en fait, de ce qu'est la musique. Ça nous fait vibrer toutes et tous dans nos métiers, d'ailleurs, respectifs, pour des raisons qui sont avant tout ce qu'on ressent devant, dans une salle de concert, ou en écoutant un album avec un casque. Enfin, les émotions, ça, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les IA, alors même si les chercheurs travaillent de plus en plus dans ce sens-là, mais aujourd'hui, une IA ne peut pas dire si tel morceau ou tel extrait est beau ou pas beau. Donc, en fait, la perception, on va dire, sensible, sensorielle, elle appartient vraiment à l'humain, donc au musicien ou à l'auteur, comme dans le cas de Nick Cave pour les paroles. Et c'est vrai que... Moi, en tout cas, j'espère, mais je crois vraiment qu'on ne pourra pas, on peut pas remplacer la sensibilité d'un créateur, d'une créatrice.
Mais pour le coup, pour autant, vous vous fascinez pour l'IA, parce qu'il y a plein d'autres choses que peuvent faire des intelligences artificielles.
Ouais, alors dans le texte, je pense que par rapport au texte, en effet, ChatGPT, bon, on en parle beaucoup en ce moment, mais il y a vraiment pas que ça, et c'est vraiment le moins intéressant. En tout cas, dans la musique aujourd'hui, par rapport à ce que ça peut, ça marche avec du prompt, donc on donne une phrase et ça donne quelque chose. C'est vraiment pas intéressant.
Juste pour que les gens comprennent, ouais. ChatGPT, je me permets juste, Céline, de la manière dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, là où le truc est génial, c'est qu'il était entraîné sur des tonnes de données, enfin en gros tout Internet et tous les bouquins qui n'ont jamais été publiés, quoi, on pourrait presque dire ça, et du coup, il imagine juste le prochain mot qui sera pertinent dans une phrase. C'est de l'analyse de probabilité du mot d'après. Donc c'est pas ça qui, en effet, c'est pas de la création, ça fait des trucs incroyables, hein, mais ça crée pas. Mais en revanche, il y a plein d'autres outils.
Oui, il y a beaucoup d'autres outils. Alors il y en a encore pas mal en stade de prototypes, donc qui sont pas forcément très accessibles. Et d'ailleurs, l'accès à ces outils est une vraie question et un vrai enjeu. La formation aussi, d'ailleurs, et l'EMIC, je me tourne vers Daniel, mais un appel. Mais en tout cas, voilà, il faut former et rendre accessibles ces outils. Mais donc, il y a des prototypes, en effet. Mais après, voilà, si on rentre dans le détail, on peut travailler sur la voix, sur la production, sur de la composition, sur de la texture sonore. Il y a plein de choses, en fait. C'est très, très, très intéressant sur le plan créatif. Mais ce ne sont que des instruments qui viennent enrichir, pour moi, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je le vois aussi par rapport aux musiciens et musiciennes avec qui je travaille, notamment Benoît Carré, mais ça enrichit une palette, mais ça n'est jamais plus que le reflet de la sensibilité de celui qui s'en sert, comme d'une guitare, en fait.
Pour toi, c'est une opportunité, l'IA, comme les boîtes à rythme étaient une opportunité dans les années 80.
Oui, je pense que c'est une opportunité, mais si c'est bien encadré. Et c'est là où il y a un problème actuel, c'est qu'il faut, rattraper un certain retard par rapport à ce qui se fait déjà dans l'illégalité, notamment par rapport à des bases de données.
Notamment donc l'encadrement juridique.
Oui, l'encadrement juridique. Il y a plein d'outils, le droit d'auteur pour ça peut protéger beaucoup. Il y a des choses là-dessus, le rapport du CSPLA notamment, que je vous encourage à lire. Il y a des choses qui sont faites pour protéger, mais il faut s'en servir. Donc il y a des outils juridiques, mais il faut savoir les utiliser. Et pour ça, il faut connaître ces technologies, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de savoir comment marchent ces machines.
Sold out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Donc il y a toute cette période freelance où tu t'intéresses à l'intelligence artificielle, tu continues à travailler sur des éditions, et puis à un moment tu crées une boîte.
Tu crées une boîte et tu t'occupes dans un premier temps de la gestion éditoriale des œuvres de Pomme.
Alors oui, en fait donc je crée ma société avec Benoît Carré. Pour la partie création, musique et IA.
2017, hein, c'est
en
ça.
En 2017, voilà.
Poupette Master.
Et là, en fait, comme je crée mon activité, je deviens, avant, j'étais salariée quand même, donc je bascule freelance avec une activité que je commence à développer et à diriger. Et là, en fait, surtout, je ressens le besoin de me faire accompagner. Donc, je passe par un programme de mentorat féminin qui s'appelle le MEWEM, qui s'adresse donc à des femmes entrepreneuses dans la musique. Et là, j'ai la chance donc, de faire partie de ce programme et d'être mentorée par Juliette Metz, éditrice musicale. Et effectivement, à l'issue de cette année de MEWEM, me liant avec Juliette, elle fait appel à moi pour l'épauler pour la gestion éditoriale du catalogue de Pomme, dont voilà, nous allez en charge.
Éditrice, ouais, en charge.
Et donc, c'est comme ça alors... que tu rencontres Pomme.
Exactement. C'est comme ça que je rencontre Pomme. En fait, je m'occupe de sa gestion éditoriale.
Puis, alors, tu nous racontes peut-être, après, tu travailles sur la prod exé de son album.
Oui, alors, il y a maintenant 2 ans, donc Pomme a créé sa société d'édition depuis quelques années et elle veut développer sa partie plutôt de production, donc le volet label de sa société. Et elle veut produire son album Consolation, qui est sorti en août 2022 à l'époque. Elle se lance dans la production, elle ne sait pas encore trop faire, donc elle me demande de l'épauler à ce moment-là pour faire la production exécutive de son album. Et de fil en aiguille, elle n'avait pas de management depuis quelques années, et elle me demande en fait au fur et à mesure de prendre une place de manageuse.
Et je peux te demander, parce qu'on est passé vite sur ce programme qui est cher à votre cœur à tous les deux, c'est un programme aussi qui est beaucoup dans l'accompagnement donc féminin pour les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as appris de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à être une femme entrepreneur? De quoi on a le plus besoin? De quoi on manque par rapport à des hommes entrepreneurs?
Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, je dirais 2 choses. La confiance en soi et le réseau.
C'est ce qui t'a le plus manqué?
Oui, et que j'ai trouvé, que j'ai développé avec ce programme. Enfin, en tout cas, j'ai compris la valeur de ce que c'était. Alors, la confiance en soi, bon, on peut tous et toutes y être confrontés. Hein, c'est pas qu'un truc de femmes, mais les femmes en particulier. Le syndrome de l'imposture, penser qu'on n'est pas capable de faire ça.
On le voit tous les jours à l'EMIC, hein, où on encourage les jeunes femmes à postuler à des postes dont elles ont envie et pour lesquels elles ont des compétences, parce que le syndrome de l'imposteur est très développé. Peut-être même plus chez les jeunes femmes
sans doute,
que les jeunes, jeunes hommes.
Sans doute. Et donc, le manque de confiance en soi, cette impression d'être dans l'imposture et en même temps le réseau. Parce que ça, c'est vraiment clé. Alors moi, je l'avais un peu compris quand même au fil de mes stages, parce que il faut le dire, hein, le travail se trouve aussi par du réseau, et beaucoup en fait. Donc c'est important d'avoir un réseau, de le développer. Et dans ce programme-là, ça sert aussi à ça. Donc je me suis beaucoup nourrie de ça, et j'ai été à plein d'événements, et au fur et à mesure, j'ai vraiment compris l'importance de développer mon réseau, et c'est indispensable quand on est freelance.
Donc pour les jeunes femmes qui nous écoutent et qui ont envie de tout ça, de gagner confiance et de gagner du réseau dans la musique, ce programme il s'appelle le MEWEM, c'est ça?
Oui.
Ça s'écrit comment?
MEWEM.
Et donc d'abord t'as appris tout ça, et donc du coup ça te sert dans l'aventure Puppet Master.
Ça m'a beaucoup appris. Le réseau c'est aussi en fait aller vers les autres. Il faut vraiment sortir un peu de sa zone de confort. Et aussi moi ce qui m'a marqué peut-être aussi en travaillant avec Pomme, c'est que moi quand Pomme me fait appel à moi, j'ai un petit moment de vertige. Je me dis moi j'ai jamais managé d'artiste avant. Donc quand même, c'est pas rien. J'ai eu un moment de est-ce que j'en suis capable. Et ce que j'ai expérimenté, et c'est peut-être aussi une leçon que j'en ai tirée, c'est que on m'a poussé, enfin mon entourage en gros m'a dit allez vas-y si t'en es capable. J'y suis allée et puis finalement j'ai pu à la fois apprendre ce métier et en même temps le faire en même temps quoi.
Et te dire que tu es légitime.
Oui, voilà, c'est ça. Ça vient. Alors, il y a des moments où j'ai l'impression que je ne le suis toujours pas. Mais il y a des moments où ça va un peu mieux. Mais c'est vraiment venu par l'expérience. Donc, d'être dans le bain, d'être dans le fait de faire les choses et de moins réfléchir à est-ce que je peux ou pas. C'est ce que tu disais, Daniel, c'est se lancer, en fait. Et ça, c'est vrai que je pense que peut-être qu'il faut inciter davantage, peut-être les femmes, sans doute, mais à se lancer. Et puis après, on voit, quoi. Et puis surtout, on fait.
Mais oui, mais alors justement, tu dirais, toi, que tu fais manageuse depuis combien de temps?
Moi, je dirais que... le fait de manager des projets est déjà du management en soi, donc peut-être depuis quand même pas mal d'années. Manager, en fait, c'est du sur-mesure. Donc, c'est surtout lié à l'artiste avec qui on travaille. Avec Pomme et Messia, déjà, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que je ne manage pas de la même manière Pomme que je manage Messia, parce que ce sont 2 artistes différentes, avec 2 personnalités différentes, 2 projets différents. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est ça qui me plaît, d'ailleurs. C'est vraiment comment, moi, je vais pouvoir... m'adapter en fait à leur projet, leur sensibilité, à leurs envies aussi. Et pour moi, manager, c'est vraiment accompagner. C'est pour moi, le mot est très clair pour moi, c'est avant tout de l'accompagnement. Je suis à leur côté.
Et en quoi, tu peux nous dire, sans trahir de secrets ou de trucs trop intimes, bien sûr, en quoi c'est différent avec l'une ou avec l'autre, ou c'est trop personnel?
Non, je peux répondre... elles n'ont pas le même fonctionnement déjà en tant qu'artistes.
Ce qui est parfaitement normal.
Voilà, comme toute artiste, elles sont différentes, donc elles n'ont pas forcément les mêmes besoins aussi. Je dirais par exemple, déjà dans leur structuration, Pomme a son label à elle et sa société d'édition. Messia, ce n'est pas le cas
encore,
pour le moment.
Ou pas encore, ouais.
Voilà, ou pas encore. Donc, ce n'est pas les mêmes partenaires autour, ce n'est pas les mêmes, voilà, les mêmes configurations. Donc, elles n'ont pas, voilà, elles ont pas les mêmes, le même entourage aussi.
Et il n'y a pas les mêmes besoins, du coup.
Et pas les mêmes besoins, exactement. Donc, Pomme, pour le coup, qui a son label à elle et que je gère en fait avec elle, pour elle, voilà, c'est encore une autre casquette. Alors, qui est très proche du management, on pourrait peut-être en reparler après. Il y a des porosités très... très forte entre l'édition, la production et le management, puisque de plus en plus d'artistes, en fait, en quête d'indépendance, créent leur structure. Ça, c'est donc aussi des choses qui, je pense, impactent beaucoup le management aujourd'hui. Voilà, donc par exemple, c'est une réponse. Ce n'est pas les mêmes besoins aussi, parce qu'elles n'ont pas les mêmes structurations.
Est-ce que tu pourrais définir ta façon de travailler comme étant un premier service aux artistes avec un accompagnement, mais aussi un accompagnement sur le label, un accompagnement sur les éditions?
Oui, alors, par exemple, avec Pomme, comme donc, j'ai commencé par la gestion éditoriale, donc je suis rentrée, on va dire, dans son projet par l'angle édition. Le fait ensuite d'être passée du côté de la production, puis du management, en soi, voilà, c'est déjà un chemin, en fait, d'accompagnement à ses côtés. Pour moi, alors, si je réponds sur ce qui est pour moi le management, donc c'est d'accompagner, mais c'est aussi de représenter, bien sûr, les intérêts de l'artiste qui me mandate pour ça, donc de défendre ses intérêts aussi, et aussi de pouvoir travailler en lien avec les autres personnes autour, parce qu'on n'est pas tout seul, enfin, on est avec l'artiste dans un rapport, de proximité, mais il y a tout l'entourage. Il y a le tourneur, exactement, toute
le
la partie...
comptable, ouais, le fiscaliste, le comptable, exactement. Si besoin, etc.
Tout à fait. Donc, il y a plein de gens autour avec qui il faut pouvoir bien travailler. Et pour moi, le manager est aussi un espèce de peut-être super chef de projet. Enfin, moi, je dois coordonner en fait tout ce qui concerne en fait son activité artistique. Elle a récemment tourné un film. J'ai été en contact avec le producteur du film pour des questions de planning ou autre. Mais donc, en fait, on touche à beaucoup de choses et il faut savoir s'adapter aussi.
Est-ce que c'est même toi qui gère ses cachets en tant que comédienne?
Ah non, elle a un agent
qui concerne le cinéma.
Exactement.
C'est un domaine
c'est
très
un autre
particulier.
Domaine, voilà. Ouais. Mais par contre, on est en lien, puisqu'il y a des porosités, et donc forcément... Donc en fait, oui, c'est vraiment accompagné. Le côté sur mesure, c'est ça. C'est parce que chaque artiste a son parcours, a son profil, va évoluer dans une certaine direction. Et c'est aussi suivre ses envies, ou bien son besoin de, à un moment donné, peut-être de lever le pied, ou au contraire. Donc c'est arriver à suivre en fait son rythme et en même temps de toujours veiller à ce que ses intérêts soient le plus à la fois être qu'elle soit respectée, écoutée et que ses intérêts soient défendus. Et pour Messia, c'est pareil d'une autre manière, mais c'est vraiment avant tout de l'accompagnement aussi avec elle parce que moi ma première mission on va dire c'est de l'écouter, c'est de les écouter et je suis là avant tout pour ça. Donc, d'abord, on dialogue. Je suis constamment à leur écoute parce que je dois m'assurer que ça va, en fait, qu'elles sont le mieux possible, qu'elles sont respectées, voilà, qu'elles sont écoutées. Et ce n'est pas toujours facile, loin de là. Donc, c'est de veiller à ce que tout se passe au mieux et que tout le monde travaille bien.
Sold Out.
Sold Out, le podcast de Delight.
On a très bien compris comment on pouvait avoir un style de management différent d'une artiste à l'autre, mais ça amène plein de questions, parce que ici on a rencontré dans ce podcast des managers ou des manageuses qui nous disaient en fait un manager c'est aussi un associé des artistes, on peut s'associer avec l'artiste qu'on manage, on peut être partenaire quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête ou est-ce que tu es OK avec ça ou est-ce que tu es pas trop OK avec cette vision-là?
Quand tu veux dire s'associer, ça veut dire sur le plan du business?
Oui, ça veut dire sur le plan du business, puis presque aussi, puis aussi sur le plan intellectuel, quoi. Enfin, mais on parlait du plan du business, hein, là.
Monter une société en collaboration dont l'equity serait
c'est ça, pour le dire autrement, la commission de 15% que prend un manager normalement ou de X%, ça reflète pas nécessairement toujours le boulot qui est fait. Il vaut mieux, tu vois, il y a des gens qui vont vers un modèle de dire on s'associe dans une boîte parce que ça reflète plus la réalité des choses.
Alors ça, je le comprends très bien. Après, c'est à nouveau lié au parcours, je pense, de la relation entre le manager et l'artiste. Par exemple, Pomme, quand moi je la rencontre, elle est déjà identifié. Je ne l'ai pas rencontré au moment où elle se développait. Donc voilà, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui. Messia, c'est pareil, c'est une artiste qui est déjà qui a fait des albums installés. Après, par contre, moi, cette configuration-là, je l'ai avec Benoît Carré parce qu'on a cofondé notre société d'édition musicale et label pour développer ses projets. Donc, c'est une manière...
Oui, parce que Benoît, il est artiste aussi.
Ouais, Benoît est musicien. Donc, c'est une manière, là, en effet, ce modèle dont tu parles, là, on est associés. Donc, je travaille avec lui. On a des intérêts aussi communs et on a une boîte en commun.
Et comment tu vois, toi, le développement de ta structure de management ? Est-ce que tu souhaites prendre plus d'artistes en management ? Est-ce que tu souhaites grossir, prendre des collaborateurs, collaboratrices ? Est-ce que tu as une idée ou pour l'instant c'est le début ?
Bah écoute, oui, c'est encore peut-être le début, mais bon, j'adore ça, j'adore ce métier qui reste complexe. Moi, j'aimerais bien, oui, développer mon activité, peut-être avec quelqu'un qui pourrait travailler avec moi, que je pourrais peut-être former aussi, et voilà.
J'imagine que tu es sollicité avec l'aura, la popularité de Pomme et son attractivité. Tu es sollicité peut-être par d'autres artistes.
Oui.
Et comment tu peux faire ton choix et comment tu fais ton choix ?
Bah là, pour le moment, c'est déjà une question de temps. C'est-à-dire que je travaille... Alors, pour Pomme, je précise que je ne travaille pas toute seule. Il y a avec nous Anna Lenoir, que je salue, qui m'assiste en fait et qui assiste aussi Pomme. Et donc, elle travaille avec nous. Donc, je ne suis pas toute seule à tout faire. Après, pour Messia, par contre, je suis toute seule. Mais ce que j'aimerais bien, oui, à terme, c'est... Alors, développer le management, il faut voir de quelle manière, parce que le rapport artiste-manager, pour moi, c'est avant tout de la confiance. Donc, c'est un rapport qui doit être quand même quotidien. Moi, j'ai besoin d'être immergée dans tous les sujets, parce que c'est mon rôle avant tout de toujours être au courant et de superviser, en quelque sorte. Donc, je ne saurais pas encore très bien dire par rapport au curseur manager, avoir des sous-managers, si je puis dire... Et je ne sais pas si ça marche, peut-être que ça marche sans doute pour d'autres, mais moi j'ai quand même besoin de ce rapport quand même...
Unique et proche,
oui, voilà, je dirais,
quotidien.
Voilà, quotidien, pour pouvoir bien faire mon travail, donc ça nécessite aussi un certain... Oui, un temps, on va dire. Mais par contre, il y a d'autres peut-être missions que je pourrais déléguer à quelqu'un, en effet. Oui, ça, je pense qu'à terme, ce serait... j'aimerais bien, oui. Peut-être plus dans ce sens-là.
Et il y a toute une partie des choses que tu as faites aussi dans ton parcours dont on n'a pas trop parlé, parce que par un moment, tu étais journaliste. T'écrivais sur l'art visuel, t'écrivais sur plein de choses dans un magazine ou dans un journal, c'est ça ?
Oui, dans L'Œil.
Ouais.
Tout à fait, un magazine Beaux-Arts. Et pendant 2 ans, j'ai écrit pour la rubrique art visuel, art de la scène, donc tous les projets qui étaient entre les deux. Et c'était très intéressant.
Est-ce que ça te manque, ça ? Enfin, est-ce que tu aimerais bien avoir une activité aussi d'écriture, une activité de presque de réflexion, en fait, sur l'évolution de
Alors,
ces secteurs ?
Bah, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ça. Le côté l'écriture, en fait, je le garde parfois parce que je vais relire ou retravailler des textes pour justement des textes qui présentent les artistes avec qui je travaille.
Bien
donc,
sûr.
Ça, je le fais, ça m'aide. Après, oui, j'aimais beaucoup faire des critiques, surtout, d'expos. Ça, j'aimais bien. La critique constructive. Pas pour démonter, mais par contre, pour apporter un regard un peu exigeant, on va dire. Ça, j'aimais bien.
Non, je pensais, Marc, que tu allais faire le lien avec le live, parce que les arts visuels, les arts de la scène, c'était aussi ta passion et puis une partie de tes études. Donc, c'est quoi ton rapport au live et au spectacle vivant quand tu travailles avec tes artistes ? Est-ce que tu t'impliques beaucoup sur la scénographie, le choix des décors, de la scène ? Enfin, voilà, explique-nous un petit peu ton implication dans la partie live.
Alors, elle est là aussi sur mesure. C'est-à-dire que, par exemple, Pomme, elle fait tout elle-même. Elle n'a pas besoin d'avoir mon avis. Enfin, elle peut me demander mon avis, mais c'est vraiment à titre consultatif. C'est elle qui crée... en grande partie, sa scénographie, c'est elle qui la design. Toute la partie visuelle, elle l'imagine. C'est quelqu'un qui est très créatif et qui pense son projet de manière globale. Donc là-dessus, elle est vraiment... c'est elle, en fait, qui pense, qui imagine et qui conçoit tout son projet, tant musique que image. Messia, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire de la mise en scène elle-même. Là, je suis à nouveau plus un regard un peu extérieur.
D'accord.
Quand elles ont besoin. Mais je ne suis pas impliquée. Après, si jamais je travaillais avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, plus tard, qui aurait besoin, ça m'intéresserait. Mais à nouveau, mon rôle est vraiment de les accompagner dans leur propre créativité. Ce n'est pas de commencer à prendre l'ascendant sur... Ah, je te verrais mieux dans tel costume ou avec telle lumière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner une artiste dans le fait d'explorer son propre univers et d'arriver à toujours s'exprimer de mieux en mieux, de suivre son fil. Donc, pour moi, c'est plus du conseil. Mais c'est vraiment à la demande.
Tu aurais aussi bien pu nous dire, par exemple, moi, la scène, c'est vital, c'est viscéral, ça me donne des frissons, je peux pas ne pas y toucher, quoi.
Alors, par contre, moi, la scène, ça me donne des frissons. En fait, moi, j'étais fan plus jeune et j'étais des fans qui faisaient la queue pendant des heures pour être au premier rang du concert. Ah ouais.
C'est marrant parce que t'es toute sage comme ça.
Ah, mais moi, j'adore les concerts. J'ai des souvenirs extrêmement forts au concert, quoi.
T'écoutais quoi?
Bah, moi, j'étais archi fan de Zazie.
J'aurais adoré que tu nous dises AC/DC, Motorhead.
Ah, j'adorais Zazie, Vanessa Paradis.
Ah oui.
Voilà.
Et tu travailleras avec elle un jour.
Peut-être, je sais pas. Et en fait, je faisais partie des fans. Moi, je rentrais le lendemain en cours, j'étais à faune parce que j'avais fait tout le concert, j'avais chanté toutes les paroles, mais j'avais pas de micro, donc j'avais hurlé, voilà. Et j'ai vécu ça. Et encore maintenant, quand je vais à des concerts, par exemple, de Pomme, moi, j'adore les coulisses, en fait. Je pense que ce qui m'anime dans ce métier aussi, c'est j'adore les coulisses. J'adore être en coulisses, voir les gens dans la salle. Et j'adore ce passage entre d'un côté ou de l'autre. Et parce qu'avant tout, moi, je suis une fan, j'adore la musique, j'adore les concerts, j'adore les disques. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais les albums au casque et je lisais les crédits. D'ailleurs, les pochettes manquent aussi pour ça. Et moi, j'adorais regarder quel est l'ingé son, dans quel studio ça a été enregistré, qui a fait la batterie, le mix. J'adorais ça, en fait, de lire derrière comment ça a été fait. Et donc, pour revenir au concert, aujourd'hui, quand je suis à des concerts donc, de Pomme, j'adore, d'ailleurs la dernière fois, je me suis fait ce petit plaisir en fait de me mettre juste à côté des vigiles, vous savez, qui sont dos aux scènes. Et là, je me suis mise là et j'ai regardé les premiers rangs. Et franchement, je le dis, j'ai pleuré en fait. Parce que de voir la tête des gens, de voir leur visage, les premiers rangs, c'est les fans quoi. Et moi, j'ai été, avant plus jeune, j'étais dans ces...
Voilà, t'étais parmi là, eux. Au premier rang.
Et là, j'ai regardé... J'ai juste regardé eux en fait. Et de voir leur visage qui regardait Pomme... Et je me suis dit, c'est magnifique, en fait. C'est vraiment la force de la musique. C'est vraiment ça, quoi. Et là, je voyais, j'étais entre les deux, entre les coulisses et entre la scène. Et voilà, c'est un moment tout récent là, que j'ai vécu au Zénith. Voilà, c'était au Zénith quand elle a joué en novembre dernier. Et vraiment, ce moment-là, ça m'a fait quelque chose de fort, quoi. Et je voyais ces gens et je la voyais, elle. Et puis voilà, ce qui est super après, c'est que de la voir avant, après, de savoir comment elle le vit. Au fond, comment un artiste en fait vit le fait d'être à des moments comme ça exposé et puis face à autant de gens. Et moi, je trouvais ça fascinant de pouvoir voir ces visages. Ouais.
Mais ce qui est génial, c'est qu'on te sent animé par un truc presque, enfin, viscéral, quoi, pour la scène. En fait, t'adores ça te fait pleurer. Et en même temps, tu te passionnes pour l'intelligence artificielle, qui est un truc qui, finalement, n'a pas tellement d'incarnation sur scène. C'est plus un truc, un domaine des possibles, un Far West, quoi.
Ouais, alors par contre, parce qu'en fait, l'IA, ce qui est intéressant pour moi, c'est pas tant l'IA en soi, c'est comment des artistes s'en servent. Donc ça revient toujours à la sensibilité. Moi aujourd'hui, je me passionne pour ce que fait Benoît Carré parce que je trouve que ce qu'il fait est vraiment très intéressant, mais artistiquement, en tant que musicien. Donc c'est comment lui se sert de ses outils et de ce qu'il en fait qui m'intéresse, c'est pas l'outil lui-même. Et on revient à la métaphore de la guitare, tu vois. Une guitare posée comme ça dans un coin, c'est très beau à regarder. Ok, c'est un outil super travaillé, voilà. Bon. Mais ce qui va être l'émotion, c'est quand un guitariste ou une guitariste...
Mais évidemment,
qui
c'est
va
la rencontre entre Gaëtan et sa guitare Martin de 1942.
Voilà.
Séparément, c'est génial, mais ensemble, c'est encore mieux.
Voilà, et tu ferais jouer par quelqu'un d'autre avec la même guitare.
Ça marche
ça
pas.
Ça peut être... super moche, quoi.
Carrément.
Et donc, c'est ça, l'artiste, il est là. La notion, elle est là, je trouve.
Je suis convaincu.
Allez.
Bon, mais c'est super, vraiment un profil encore différent. On comprend bien à quoi tu marches. Mais alors, du coup, ça va donner envie à plein de jeunes filles et plein de jeunes gens et plein de gens qui nous écoutent de faire ces métiers-là. Et donc, je laisse à Daniel la dernière question rituelle de Sold Out.
Alors, la dernière question, c'est quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans ce métier de manager d'artiste?
Le conseil, c'est, il y en aurait plusieurs, mais c'est déjà peut-être de pas faire que ça. Parce que le management, en fait, c'est un métier qui est complexe, qui est d'ailleurs difficile. C'est un métier qui est très difficile. Il fait rêver pas mal de gens, mais en fait, c'est un métier qui est très dur. On en prend aussi plein la figure, hein, quand même, parce qu'on fait beaucoup de tampons avec beaucoup de gens. Donc, c'est un métier qui est difficile, et je pense qu'il faut avoir fait plein, peut-être, d'autres métiers autour. En tout cas, ne pas faire que ça, pour être vraiment assez solide. Parce que c'est voilà, un métier qui demande de connaître énormément de choses. En fait, on passe de la négociation du contrat, d'un contrat à un problème avec le merchandising, à un problème avec un journaliste. Ou voilà,
la coordination avec le label.
Exactement. Donc
c'est une palette de... Il faut être polyvalent.
Oui, très polyvalent. Donc je dirais ça. Peut-être de ne pas faire que ça, ou peut-être commencer par autre chose avant.
Chez Poupette Master, vous avez des stagiaires, des apprentis, des trucs comme ça ou pas encore?
Non, pas encore.
Et pourquoi Poupette Master?
C'est un clin d'œil au film Ghost in the Shell, qui parle justement d'une IA. C'est un film animé qui a quelques années maintenant, mais qui parlait déjà d'une IA qui, du coup, va dire, est mise dans un corps. Et ça, c'est d'ailleurs un des enjeux du futur, parce que pour le moment, les IA n'ont pas de corps, et heureusement, mais ça va changer le jour où on mettra une IA dans un corps, ça, c'est sûr.
D'ailleurs, je crois, Marc, que tu es une IA.
Ah, c'est pas impossible, ça me ferait des vacances, je te jure, par maman. Merci. En tout cas, j'étais ravi de ne pas être une IA pendant cette interview, parce que c'était trop cool de te rencontrer.
Bah, merci à vous encore.
Merci, Céline. Merci, Daniel, d'avoir proposé à Céline de venir au micro de Sold Out.
Merci, Marc.
Et ben, on se revoit bientôt pour la semaine prochaine, un Sold Out sur le live, et dans 15 jours, un autre Sold Out sur les managers d'artistes. Salut. Shit.